Stolperstein ont été scellés à Strasbourg, aux quatre places de l'université, à la mémoire d'Agathe et Jean-Jacques Follen, une mère et son fils déportés et assassinés au camp d'Auschwitz en 1943. Ils faisaient partie du convoi 62. Une cérémonie à la mémoire des disparus s'est déroulée ce jeudi 23 avril 2026 devant un parterre d'officiels dont la maire de Strasbourg et en présence de l'artiste Gunther Demnig. Richard Abouaf, président de l'association Stolperstein 67.
La question de la représentation de cette mémoire ainsi que ses dimensions sociales sont précisément au cœur du problème de notre rapport aux disparus durant la Shoah et aux victimes du national-socialisme de manière plus générale. Le projet Stolperstein est au cœur de ce questionnement. Mesdames et messieurs, ces deux petits pavés de laiton qui viennent d'être scellés devant la dernière demeure d'Agathe Follen et de son fils Jean-Jacques sont ce qu'il est convenu d'appeler des Stolperstein, des pierres d'achoppement. Près de 270 Stolperstein ont été posés à Strasbourg, dans l'Eurométropole, imprimant ainsi dans l'espace public les marques d'une présence séculaire, mais aussi et surtout d'un vide, d'une absence avec lesquelles les proches escapés et les familles, lorsqu'elles sont encore de ce monde, ont dû se reconstruire. Cette cérémonie, pour la plupart des familles rattachées aux disparus, qui n'ont eu ni sépulture, ni oraison funèbre, constitue le seul moment de recueillement qu'ils ont pu avoir après la disparition de leurs proches. Comme j'ai pu le souligner souvent, la pose ne doit pas constituer ni devenir un acte machinal ou une routine. Chaque destin, chaque histoire mérite une marque de commémoration individuelle. La Fondation berlinoise refuse la fabrication à la pose en masse. C'est précisément pour contrer l'idéologie de destruction en masse de l'époque. Chaque nom gravé sur un Stolperstein est une destinée, une humanité, un espoir de vie brisé.
Le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Avraham Weil.
On a souvent tendance à penser que lorsque l'on pose des pavés avec des noms, c'est pour que nous puissions les regarder, pour que nous puissions nous recueillir devant eux. Et on oublie qu'en réalité, eh bien, ce sont parfois eux qui nous interpellent et qui nous demandent ce que nous avons à dire par rapport à cette histoire, la manière dont nous allons endosser notre responsabilité et dont nous allons choisir de poursuivre leur histoire et de nous inscrire dans malheureusement ce qu'eux n'ont pas eu la chance de pouvoir faire.
Les élèves de la classe de théâtre de l'Orte Strasbourg, Jasmine, Lucie et Maora, reprennent le texte de Jean Ferrat, Nuit et brouillard.
Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu.
D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ?
Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues.
Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Elle parle de leur implication dans le projet et leur investissement pour ce sujet si lourd.
Alors moi j'avais déjà entendu parler des Stolperstein quand j'avais fait géopolitique au lycée, donc je savais déjà de quoi en parler et surtout c'est ma première année en théâtre, donc je voulais m'entraîner avec un petit exercice ici et c'est super cool. Moi j'aime beaucoup ce sujet et j'étais très intéressée par tout ce qui est mémoire, en particulier la mémoire des juifs, des tziganes. Je trouve ça les rend humains, ces gens qui sont devenus comme des pavés, mais qui étaient comme nous finalement.
Pour moi, c'était vraiment très important cette déclamation de texte. Le but, c'était vraiment de donner une dimension humaine et émotionnelle à ce texte. On surprend les gens, mais aussi on essaye de leur faire comprendre que la mémoire, c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça comme un événement qui est très lointain et on ne pense plus vraiment à la tragédie que c'était.
Je trouve ça très intéressant, comment on a pu l'interpréter. C'est beaucoup plus théâtral, mais justement, c'est... Comme on était mêlés à la foule, ça concernait tout le monde. C'est un message pour faire comprendre ce qui s'est passé. Et comme il le disait tout à l'heure très bien, il faut comprendre et ne plus répéter ses erreurs. C'est très important avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Il faut absolument prendre conscience que ces textes-là, ils sont toujours autant actuels, alors que ça ne devrait plus l'être. Et on est très heureuse d'avoir pu participer à cette petite partie d'histoire. et faire comprendre et rendre hommage aussi aux personnes et à la famille.
Catherine Trottmann, maire de Strasbourg, un extrait de son discours.
En tant que ministre de la Culture, j'ai eu ce devoir de procéder à l'exposition des fiches des déportés. Et j'avais été extrêmement impressionné. Quand vous lisez les noms, vous imaginez les villes, les lieux, les quartiers, l'âge. Et donc, leurs traces sont des traces vivantes. Et le fait de garder les noms est une manière de rappeler leur vie. Et donc de nous engager à vivre aussi avec cette mémoire.
Anne Becker, petite-nièce d'Agathe et Patricia Le Philippe, elles reviennent sur les souvenirs familiaux d'Agathe et Jean-Jacques et leur destin tragique.
Agathe était la plus jeune des frères et sœurs. Et c'était aussi la plus gentille, la plus jolie, la plus... Elle était toujours de bonne humeur, elle était serviable. C'était une femme charmante. En 1943, elle tenait une petite mercerie avec sa sœur Thérèse et elles habitaient juste au-dessus. Quand elle a entendu les pas qui montaient dans l'appartement, elle s'est précipitée parce que son fils Jean-Jacques était en train de faire ses devoirs. Et ils sont partis ensemble. Et Jean-Jacques aussi, c'était le plus jeune des cousins. C'était aussi le plus mignon, le plus attachant. Il travaillait bien à l'école, il avait plein de copains et il avait, je pense, tout pour devenir un mensch. Mais il y a des gens qui les ont assassinés et qui ont essayé d'effacer tout souvenir de leur passage. Et aujourd'hui, grâce à vous, eh bien, il y a une mémoire qui est là, un souvenir, et puis qui brille.
Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous tous pour cette pause en souvenir d'Agathe et de son fils Jean-Jacques. En fait, depuis plusieurs années, je travaille sur toute la généalogie de ma famille, envie de connaître, envie de comprendre. Et une fois les ascendants retrouvés selon les branches de ma famille, mes recherches se sont portées sur les fratries, dont celle de mon arrière-grand-père maternel Désiré Follaine, pour retrouver les descendants. Donc comme vous le savez, Agathe et Jean-Jacques ont tous les deux été raflés à Aubusson, puis déportés via Drancy par le convoi 62, où ils ont été tués. Et pourtant, ils avaient encore une longue et belle vie à vivre, un mari et un père aimant, Paul. Agathe avait 47 ans, Jean-Jacques venait d'avoir 16 ans. Ma grand-mère maternelle, Jacqueline Follaine, cousine germaine de Paul, ayant aussi vécu la déportation de mon grand-père, son mari Armand Dreyfus, et elle doit être très heureuse et très émue d'avoir fait que j'ai pu faire tout ce travail de recherche.
Anne Becker revient sur ses liens familiaux.
Agathe était la plus jeune sœur de la fratrie de mon grand-père. Mon grand-père était l'aîné et Agathe était la plus jeune, donc c'était ma grande-tante. Et quand j'étais enfant... On me parlait tellement d'Agathe et de Jean-Jacques que je m'étais inventé comme deuxième prénom Agathe. Parce qu'on la paraît de tellement de qualité, je disais que je m'appelais aussi Agathe, voilà, quand j'étais toute petite. Et donc ça a bercé toute mon enfance. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Je pense à mes grands-parents qui m'en ont tellement parlé, mes parents, et qui nous ont transmis tout ça. Mes grands-parents, eux, heureusement, étaient internés en 1944, où les Allemands n'avaient plus tellement les moyens. Donc ils étaient à Montluc. Et ma grand-mère, pour avoir des nouvelles de mon grand-père, avait accepté d'être interprète de Barbie. Comme ça, elle savait ce qui se passait chez les hommes. Et mon grand-père, du coup, aussi était dans la même cellule que Marcel Bloch d'Assaut. À la fin, ils sont partis à Drancy, où ils ont été libérés à ce moment-là. Mais Marcel Bloch, lui, il est parti à Auschwitz, parce que je pense que les Allemands voulaient le monnayer. Voilà.
Patricia Le Philippe, petite-fille de la cousine de Paul, le mari d'Agathe.
Je suis à l'origine de toutes ces recherches, d'avoir tout découvert et d'avoir retrouvé Anne, d'avoir pu partager tout ce travail fait, et puis de retrouver des descendants et faire que les cousines Follaine soient également là pour Agathe et Jean-Jacques. C'est émouvant, c'est important, c'est un travail de mémoire qui a toujours existé dans ma famille. Ma grand-mère a toujours aidé la communauté. C'est important de transmettre. Voilà, moi-même, je suis grand-mère de quatre petits et dans le petit cinquième, on a hâte d'être à la Brit Mila pour l'accueillir dans la communauté. Donc oui, c'est bien. C'est bien de le faire.
Et jusqu'à présent, c'était une transmission orale. Aujourd'hui, il y a une trace ici qui s'inscrit dans le bitume, dans le laiton également. Cette trace indélébile pour votre famille, ça fait une assise, une racine supplémentaire.
Oui, parce qu'on n'osait pas interroger nos grands-parents qui avaient subi la déportation. Mon grand-père a été dans la rave des notables. C'est important de pouvoir dire aux suivants, de leur raconter l'histoire de la famille. Et je pense qu'on fait partie de cette communauté qui a le devoir de transmettre.
Nicolas Logel, historien, sur sa méthode de travail autour des recherches en amont de la pose de Stolperstein.
La famille nous a contactés en nous donnant les noms. Donc le premier réflexe est de chercher sur les bases de données déjà existantes, Mémorial de la Shoah, le mémorial de Serge Klarsfeld qui est en ligne. Puis après, consultation de dossiers aux archives pour notamment obtenir la rue. Il y a des archives qui sont en ligne, l'adresse bourg qui est en ligne. Ensuite, il y a les fichiers domiciliaires qu'il faut consulter au municipal, aux archives départementales pour les commerces, etc. pour tout ce qui est de la spoliation. Donc petit à petit, en fait, on retrace le parcours de ces personnes-là. Il faut dire une chose, c'est que la famille avait fait un travail préalable vraiment exceptionnel, en fait. Donc nous, on a surtout travaillé pour trouver l'adresse.
Au-delà du côté patrimonial, aujourd'hui, le côté émotionnel de rendre une identité à ces personnes qui ont disparu, qui ont été assassinées loin de chez eux, ça vous parle, ça vous procure quelque chose? Il y a une importance pour vous également. On sait que le côté historien est peut-être certainement très factuel. Est-ce que le côté émotionnel, il rentre en jeu?
Je crois qu'un bon historien a aussi le sens de la mesure, c'est-à-dire que je ne peux pas me scinder en deux, on est nécessairement touché par des poses comme ça, puisque c'est très concret. On voit aussi à quel point ça pèse sur les descendants, en fait, puisque ça a beau avoir eu lieu il y a plus de 80 ans maintenant, on voit à quel point ça les a marqués, et on voit toute cette émotion, et je crois que c'est vraiment indissociable. Et puis ça change des autres commémorations massives qui sont ritualisées, qui sont peut-être des fois dénuées de sens, puisque là on est vraiment on les réinsère un petit peu d'une certaine manière dans l'espace public duquel ils ont été arrachés. On s'imagine, on visualise plus facilement. Il y a une pause de cérémonie, je me souviens, où les gens nous ont fait entrer dans la maison dans laquelle les personnes qui avaient été déportées habitaient. On l'a vécu qu'une seule fois, mais c'était extrêmement émouvant. Et non, c'est très, très, très important. C'est un engagement mémoriel, scientifique, mais c'est aussi un engagement humain. On travaille là-dessus parce que ça nous touche, et je crois que ce serait une bêtise de dire qu'on est complètement neutre face à ce genre de tragédie, en fait. Et je crois qu'un bon historien doit aussi avoir ce sens-là pour prendre la mesure des choses.
Et pour terminer, nous avons tendu notre micro à la maire de Strasbourg, Catherine Trottmann, sur l'importance de l'inscription de ces deux noms à l'histoire de la ville de Strasbourg.
Oui, c'est important pour Strasbourg d'avoir la possibilité de connaître les itinéraires de vie de Strasbourgeoises et de Strasbourgeois, comme Agathe Follen et son fils Jean-Jacques, qui ont été arrêtés à Aubusson et déportés à Drancy et qui ont malheureusement disparu. Ces histoires de vie modeste de citoyens rappellent que ça peut nous arriver à tous et que nous sommes tributaires de leur histoire aussi aujourd'hui si on veut éviter que des décisions sinistres puissent être prises avec la perversité de la destruction de masse, de la mort en masse que nous avons à proximité aussi au Struthof. Et donc, qu'il y ait des élèves qui, hier même, visitaient le Struthof, qui aujourd'hui voient les descendantes, arrière-cousines d'Agathe et de Jean-Jacques, ça montre que la transmission est possible et nécessaire. Et la mémoire, de ce point de vue-là, et grâce à cela, reste vivante. Parce que pour moi, une mémoire qui n'est pas active, qui n'interpelle pas comme les pierres Stolperstein, qui sont des pierres d'achoppement, qui nous interpellent justement pour nous rappeler, pour nous interroger sur ce que nous faisons aujourd'hui. C'est important qu'elle soit dans l'espace public. C'est dans l'espace public qu'on a ce devoir aussi de rappel, ce devoir historique. Le fait que les noms soient inscrits, ce sont les personnes qui sont évoquées. Et garder les noms, c'est les garder aussi avec nous. Comme d'ailleurs les noms qui sont inscrits dans le jardin mémoriel sur le site de l'ancienne synagogue et que nous lisons chaque année. C'est une façon aussi de rappeler que c'est le nom qui rappelle l'existence des personnes, qui leur donne vie. Mais c'est aussi cette communauté des vivants qui fait le choix de se souvenir et donc de transformer cette mémoire en action aujourd'hui pour mieux connaître la ville, pour pouvoir l'accepter aussi telle qu'elle est dans sa diversité, avec l'histoire de ses familles qui, depuis des siècles, ont enrichi Strasbourg de leur culture, de leur rapport de travail, des enfants, de leurs liens, de leur réseau. Voilà. Et ce sont des personnes qui, du coup, prennent une, une nouvelle, je ne peux pas dire une nouvelle vie, mais une réalité, une nouvelle réalité.
Les Stolperstein d'Agathe et Jean-Jacques Follen sont scellés devant leur dernier domicile aux 4 places de l'université à Strasbourg. Et pour terminer ce reportage audio, le chant des déportés, écrit dans le camp de concentration de Bergamore, interprété par Leonard Kretz au saxophone.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.